Bonjour à chacune et chacun. Alors c'est vrai que cet été, nous nous sommes plongés dans une série sur les psaumes que nous avons appelés psaumes de l'espérance, qu'on appelle aussi psaumes messianiques, puisque effectivement les chrétiens les ont vus comme renvoyant à Christ, Jésus-Christ, et accomplis par lui. Et puis ces psaumes ont donc été écrits au sein du peuple d'Israël, et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme Jean-Luc l'a souligné, nous les lisons en tant que chrétiens, en pensant qu'ils ont quelque chose à nous dire, aussi en lien avec Christ et en lien avec notre propre vie. Alors, nous allons lire le psaume 41. J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Quand relation rime avec trahison ». Je pense que si vous n'avez pas encore lu le psaume, vous comprendrez pourquoi au fil de la lecture. Donc c'est un psaume au chef de cœur, on ne sait jamais trop bien ce que ça veut dire, on a traduit comme ça, mais voilà, on ne sait pas exactement ce que ça signifiait. Mais c'est un psaume qui est marqué « Psaume de David ». Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Il le soulage dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand s'éteindra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il récolte des sujets de médire, puis il s'en va et en parle à l'extérieur. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils méditent sur mon malheur. Il est gravement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi, et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Je saurai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'établis pour toujours dans ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Alors c'est un psaume qui souligne la récompense promise aux personnes qui s'occupent des personnes plus faibles qu'elles ou qui manquent de ressources. Voilà, on revient au début du psaume. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Et cette récompense, c'est le secours de Dieu, c'est sa présence lorsque les circonstances tournent mal. Ce que ce psaume souligne finalement, c'est que même si on a commis une faute contre Dieu, puisque c'est indiqué au verset 5, David dit « J'ai péché contre toi », même si on a commis une faute contre Dieu, on peut faire appel à sa pitié. Et même si les autres êtres humains ne se montrent pas dignes de confiance, Dieu, lui, reste un appui solide. Alors, on pourrait interpréter les versets 2 à 4, le jour du malheur, l'Éternel le délivre, le garde, lui conserve la vie, comme plutôt une prière qu'une promesse de ce qui se passera. Mais en fait, d'après la forme verbale, il semble plus approprié d'y voir une description de ce qui se passe, effectivement. Et puis, on sait que dans l'Ancien Testament, le soutien à apporter aux personnes plus pauvres est clairement enseigné. C'est décrit comme quelque chose qui reflète les préoccupations de Dieu lui-même, qui est le père des orphelins et des veuves, par exemple. C'est un attribut qui est présent régulièrement. Et ici, on voit presque au verset 4 en particulier, l'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, il le soulage dans toutes ses maladies. On voit presque la tendresse d'un soignant qui nous est accordé, qui est accordé de la part de Dieu. Et puis, peut-être qu'on peut se dire finalement, si on s'attend à ce que Dieu s'occupe de nous, on doit peut-être se poser la question, est-ce qu'on peut s'attendre à recevoir de lui ce qu'on refuse aux autres ? Si nous nous plaçons dans une position de dépendance vis-à-vis de Dieu, en tant que plus pauvre, plus faible que lui, il est normal que nous nous rendions compte que nous aussi, nous avons à avoir la même attitude que lui, finalement, envers les plus pauvres et plus faibles que nous. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire ou autre pour aider le prochain. L'amour pour Dieu, dans la Bible, est souvent indissociable de l'amour pour le prochain. Alors, au verset 5, David ne demande pas seulement à être délivré d'une maladie physique, il parle aussi de son péché, de sa faute. Le péché peut être vu comme une maladie. Il dit « guéris mon âme ». Il se rend bien compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui n'est pas complètement à 100% net, si on veut parler en termes non théologiques. Et c'est ce qu'on appelle le péché. « J'ai péché contre toi ». Et il se rend bien compte que cette attitude-là est offensante vis-à-vis de Dieu. Il fait un certain nombre de constats dans ce psaume. Donc même s'il a aidé des amis, même des plus pauvres, même s'il a fait quelque part ce qui était attendu de lui, il se rend compte que déjà lui n'est pas complètement à 100% dans la bonne disposition vis-à-vis de Dieu. Mais il fait d'autres constats aussi. C'est que quand tout va mal, même quand on a toujours eu une attitude positive envers quelqu'un qui ne pouvait pas nous rendre des bienfaits, on peut se retrouver à de l'opposition. C'est pas parce qu'on fait le bien qu'on va recevoir du bien en retour. C'est pas automatique. Et même des gens à qui on accorde une place d'honneur et d'intimité, je parle d'une place d'honneur parce que celui qui mange mon pain, c'est David qui s'exprime, c'est le roi qui s'exprime. Il a invité des gens à sa table, donc il leur a accordé une marque d'honneur. Et finalement, ces gens-là même se retournent contre lui. Donc des gens qui se comportent en amis sous nos yeux, alors je dis nous parce que voilà, c'est plus simple de parler en nous, des gens qui se comportent en amis sous nos yeux peuvent se comporter en ennemis derrière notre dos. Donc là, on peut parler d'hypocrisie, on peut parler de trahison. Les autres se réjouissent que les choses tournent mal pour nous. Ils guettent les signes qui indiquent l'absence de salut pour nous. Ils se livrent à des cancans. Et même des personnes à qui l'on pensait vraiment pouvoir faire totalement confiance adoptent une telle attitude. Alors celui qui lève le talon contre moi, on peut y voir l'image d'un cheval, donc du cheval qui se retourne contre son cavalier. Et ce dont David se rend compte, c'est qu'il est plus facile de trouver de l'aide et du soutien auprès du Dieu contre qui on a fait péché, qu'on a offensé, qu'auprès d'un ami qu'on a aidé en l'accueillant ou avec lequel on a vécu dans une certaine proximité. C'est un constat assez terrible sur l'humanité, mais je crois qu'on se rend compte, si on a vécu un certain temps, que ça peut effectivement être le cas. Alors David pourrait avoir particulièrement à l'esprit la trahison de son ami Achitophel, qui s'est mis du côté de son fils et qui ensuite s'est pendu. Mais je ne veux pas forcément développer cet aspect-là. Au verset 11, il y a un texte qui m'a un peu surprise. « Éternel, aie pitié de moi et relève-moi et je leur rendrai ce qu'ils méritent. » Bon, on a l'impression qu'il a envie de se venger et que ce n'est pas très chrétien. En fait, bon, en tant que roi, David était responsable de l'exercice de la justice et certains comportements méritent d'être sanctionnés. Certaines versions traduisent par se venger. Personnellement, il me semble que c'est aller trop loin par rapport au sens du verbe en hébreu et c'est aller trop loin par rapport à son usage dans le reste de l'Ancien Testament. C'est vraiment restituer quelque chose. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Antiquité, c'est vrai, trahir un ami qui vous faisait confiance, c'était considéré comme quelque chose de très très malveillant. Aujourd'hui, on a peut-être des séries télévisées qui parlent de trahison à gogo, et finalement, ça dérange personne. Finalement, le plus malin, c'est celui qui arrive à trahir tous les autres et à réussir grâce à cela. Mais dans l'Antiquité, trahir un ami, c'était très malveillant, c'était horrible. que ce soit pour une autre loyauté, pour de l'argent, etc. Et puis ensuite, donc, manger à la table de quelqu'un, c'était établir une relation d'alliance avec lui. Donc c'était vraiment nouer quelque part un lien assez fort. Et donc c'était particulièrement méprisable. Et David, en tant que roi, était responsable aussi de l'exercice de la justice dans son royaume. Et donc quelque part, c'est légitime qu'il dise quelque part, je vais sanctionner de tels comportements. Au verset 13, David conclut, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Alors, ou en me maintenant dans mon intégrité, c'est les deux traductions possibles de ce texte. Alors quand on traduit à cause de mon intégrité, on peut se dire, mais en fait il vient de dire qu'il a péché, donc c'est pas très logique. Je crois que c'est quand même possible de traduire comme ça, parce que le terme d'intégrité renvoie à quelque chose qui est entier, qui est complet. C'était un animal sans défaut, c'était quelque chose qui était, sans dissimulation, sans réserve, etc. Et je crois que si David dit « tu m'as soutenu à cause de mon intégrité », c'est simplement qu'il a envers Dieu une attitude dénuée de dissimulation, de fausseté, etc., de faux semblants. Et cette attitude-là contraste avec les faux semblants des autres personnes envers lui et envers Dieu aussi probablement. Ensuite, on a au verset 14 cette doxologie. On appelle doxologie donc une parole qui exprime la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. Alors, on s'est rendu compte que dans les cinq livres des psaumes, il y avait à la fin une doxologie de ce genre, une parole qui loue Dieu. Donc on n'est pas absolument certain qu'il faille rattacher cette doxologie particulièrement au psaume 41, parce que là on est à la fin du livre 5 des psaumes. Mais il me semble qu'elle est appropriée ici, parce qu'elle souligne que le Dieu d'Israël, celui en qui David met sa confiance, est vraiment digne d'être remercié et célébré. Alors là j'ai passé en revue un petit peu le psaume avec certains enseignements qu'il nous apporte. Et puis, on peut passer au point de savoir que se passe-t-il quand nous nous sentons trahis ou quand nous sommes effectivement trahis. Il peut y avoir les deux. Parfois, on se sent trahi sans l'être réellement et parfois, on est effectivement trahi sans se sentir trahi, d'ailleurs. On ne se rend pas compte qu'on l'est. Alors, la trahison peut consister dans le fait que quelqu'un révèle à d'autres un secret qui est lié à nous ou bien des éléments de discussion qui devraient rester confidentiels. Et puis, il nous a promis de garder le silence. Et après, voilà, il la révèle à d'autres. Il révèle à d'autres ses éléments. Il révèle à d'autres une information à notre sujet qui va nous nuire. Ou bien quelqu'un nous a fait une promesse et ne la respecte pas. Et en fait, c'est vrai que même si on est peut-être un peu plus tolérant vis-à-vis de la trahison aujourd'hui, je crois qu'on ressent tous, quand on est trahi personnellement, une profonde blessure, un profond sentiment de douleur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer comme ça d'un revers de la main. Et en même temps, c'est vrai que les moments où on se retrouve dans un état de faiblesse, comme quand on est trahi, comme quand on se retrouve tout seul, isolé par d'autres, c'est synonyme d'heure de vérité sur nous-mêmes et sur nos relations, sur nos véritables amis, etc. Alors que faire quand nous nous sentons dans des circonstances telles que celles-ci ? Ce psaume nous invite à chercher de l'aide auprès de Dieu. Bon, vous me direz, ce n'est pas très original. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de se rappeler jour après jour. Nous ne sommes pas les premiers ni les seuls à qui une telle situation arrive. Et ce qui est beau dans les psaumes, c'est que finalement, nous nous rendons compte que nous pouvons exprimer librement tous les sentiments qui nous animent, toute notre déception, tout notre besoin que la justice soit rendue un jour. Nous pouvons le dire à Dieu, en lui laissant après régler les choses, mais nous pouvons le lui dire. Et puis je crois que ce psaume nous invite aussi à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous-mêmes nous sommes sans tort ou non. Cela nous aide à vérifier la pureté de nos propres motivations. Nous ne sommes pas toujours blancs. Et je crois que si nous nous examinons, nous nous rendons compte aussi parfois que nous ne sommes pas si irréprochables que cela. Nous savons que le cœur de l'être humain est tortueux, et ça concerne aussi les chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous savons aussi que c'est grâce à l'œuvre de Christ que nous pouvons nous présenter comme irréprochables devant Dieu. Ce n'est pas grâce à la blancheur naturelle de notre cœur. Mais nous sommes dans une série sur les psaumes messianiques et je crois que ce que j'aimerais surtout évoquer maintenant, c'est la trahison vécue par Jésus. Je pense que vous avez peut-être connu le texte qui a été cité par Jésus dans le Nouveau Testament. Donc ce n'est pas un texte qui a été cité à propos de Jésus, c'est un texte qui a été cité par Jésus. C'est le verset 10. Celui qui mangeait mon pain lève le talon contre moi. Et il le cite dans Jean 13, 18. Je ne sais pas si vous savez reconnaître comme ça le passage de Jean 13. C'est le passage où Jésus lave les pieds de ses disciples. Donc on se situe peu avant sa mort. Au début, je me suis dit, c'est un texte assez long à lire, et puis en fin de compte, j'ai eu de la peine à le couper. Donc je propose qu'on le lise maintenant en entier. Je trouve que c'est dommage de raccourcir le texte en le résumant, il a tellement d'enseignements en lui-même. Donc nous sommes effectivement avant la fête de la Pâque, où Jésus va mourir. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. » Et donc là, en disant « moi, je suis », Jésus renvoie au nom de Dieu dans l'Ancien Testament. « en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Alors c'est un texte qui est vraiment qui contient énormément de richesses, mais j'aimerais juste souligner ce qui est dans ce texte sous l'angle de la trahison. Je rappelle juste que juste après ce passage, Jésus annonce aussi que Pierre va le renier. Donc c'est aussi une forme de trahison quelque part. Ensuite, en Jean 15, on a les discours sur l'amour entre les chrétiens, entre les disciples de Jésus. En Jean 16, la venue de l'Esprit. Et puis en Jean 17, la prière sacerdotale qui a été étudiée dans les ateliers bibliques, qui aborde la question de l'unité des siens et de l'hostilité du monde. Donc c'est vraiment tout un passage qui est très... très condensé, très riche. La trahison, comme je l'ai dit, on la vit douloureusement, mais l'impact social est moins fort aujourd'hui que dans l'Antiquité, en principe. La trahison vécue par Jésus était particulièrement forte à plusieurs égards. Elle venait d'un intime, de quelqu'un qui avait vécu à ses côtés, qui a eu l'honneur de pouvoir manger avec lui pendant 3 ans, de pouvoir recevoir ses enseignements au quotidien. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Vous passez 3 ans avec quelqu'un et cette personne vous trahit. C'est vraiment quelque chose de très très dur. Ensuite, dans l'Antiquité, la trahison par un baiser, alors on n'a pas lu dans ce passage, mais vous vous rappelez le baiser de Judas, je pense, la trahison par un baiser était particulièrement détestable. Un autre élément encore, c'est que le comportement du disciple rejaillissait sur son enseignant. Donc la trahison d'un disciple... c'était source de honte pour son maître. Ce n'était pas seulement source de honte pour le disciple. La trahison par un ami proche, non seulement elle était douloureuse et dangereuse, mais elle était aussi source de déshonneur pour la personne qui avait été trahie. Donc, on a sur Jésus un rejaillissement du comportement honteux de Judas. Il n'y a pas seulement la souffrance, il y a aussi toute cette honte, tout ce déshonneur. Un autre élément aussi par rapport à la trahison de Jésus par Judas que j'aimerais souligner, c'est que cette trahison ne s'est pas limitée à des cancans ou à des propos malveillants comme dans le psaume 41. Judas est allé trouver des responsables juifs pour leur proposer le moyen d'arrêter Jésus sans susciter de troubles parmi la foule. Alors c'est vrai qu'on se pose des fois l'utilité de la trahison de Judas. Est-ce qu'il n'aurait pas pu l'arrêter tout seul sans lui ? Un élément de réponse, peut-être pas le seul, c'est que utiliser un disciple pour s'approcher de lui, ça permettait de retarder la résistance de l'entourage de Jésus ou le combat, et puis d'identifier rapidement Jésus, même s'il faisait nuit. On n'avait pas des rues éclairées comme aujourd'hui. Hein. Et puis, un autre élément qui vient ajouter à la dureté de cette trahison, c'est que Jésus a fait cela contre la somme d'argent que valait un esclave, 30 pièces. Donc voilà, c'est pas absolument extraordinaire. Il a vendu Jésus. Et cette trahison a en plus débouché sur sa mort. Donc on voit qu'on est là très loin, peut-être des trahisons que nous avons l'occasion de vivre au quotidien. On est dans une dimension bien supérieure. Mais ce qui est frappant dans Jean 13, c'est de voir que Jésus savait tout cela.
en citant le psaume 41:10, je ne sais pas si vous avez noté, il ne dit pas « celui en qui j'avais confiance ». En fait, il savait qui était Judas dès le départ, il savait que c'était Judas qui allait le trahir. Il n'avait pas confiance en lui, mais il n'avait pas non plus confiance dans la plupart des êtres humains, parce qu'il savait que tous les êtres humains que nous sommes sont un petit peu vacillants dans leurs opinions selon les moments et les avantages qu'ils peuvent en tirer. Donc il savait parfaitement qui était Judas, il connaissait son comportement de voleur, Jean en parle aussi à un autre moment. Il savait que Judas allait le trahir et néanmoins il l'a choisi comme disciple. Donc on voit qu'il y a vraiment une décision ferme de sa part de faire cela. Et puis, comme je l'ai dit, il savait que Pierre allait le renier puisqu'il l'a annoncé à Pierre. Donc que Pierre allait aussi quelque part le trahir, même si c'était sous une autre forme. Mais surtout, ce que je vois, c'est qu'il a fait accepter tout cela parce qu'il voulait aller au bout de sa mission de salut pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'il a fait consciemment. Il a accepté de subir l'injustice en étant condamné pour des hommes injustes. Ça, on a l'habitude de le dire. Mais il a accepté de subir l'injustice en étant aussi condamné par des hommes injustes, en étant trahi par des hommes injustes. Il a accepté d'être trahi de la façon la plus honteuse et la plus douloureuse qui soit. Alors, on peut se dire que la trahison par Judas était voulue par Dieu pour éviter justement d'autres pertes humaines qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Mais je pense qu'elle ne se limite pas à la volonté de limiter les dégâts. Je crois que Jésus a accepté non seulement de porter nos péchés pour être puni à notre place devant Dieu, mais il a accepté aussi de subir lui-même l'impact des pires comportements pécheurs des êtres humains. Il a porté nos péchés et il a subi lui-même l'impact de ses péchés, de ses comportements pécheurs. Il a accepté les pires déshonneurs et les pires signes de faiblesse. On pourrait dire le summum du mal. Donc trahison par un proche et un disciple, vente comme esclave pour de l'argent, mort réservée aux criminels. La croix, c'était la mort réservée aux gens maudits, aux criminels. Il a accepté d'être nu sur une croix, dévisagé et raillé par ceux qu'il venait sauver. Vous aurez remarqué aussi dans Jean 13 que Jean mentionne par deux fois le diable et Satan qui entrent dans Judas. Alors je ne vais pas proposer toute la série des explications qui ont été données à ces mentions-là. Je ne pense pas avoir la réponse, mais pour moi, en lisant ce texte, j'ai pensé que surtout ça nous montrait que pour Jean voulait nous montrer que Jésus était confronté à la trahison d'un proche, mais aussi à l'opposition des forces spirituelles hostiles à Dieu. Donc Satan, le diable, c'était pas seulement une question humaine, il y a aussi une question spirituelle derrière, et Jean, je crois, le montre en parlant du diable qui entre dans Judas, ou Satan qui entre dans Judas au moment où Jésus lui donne le morceau de pain. Mais finalement, tout cela, tout ce tableau noir, quelque part, qui peut nous décourager, nous oppresser, c'est tout cela qui nous permet aujourd'hui, même lorsque nous ne sommes pas totalement innocents, donc ça veut dire tout le temps, de nous présenter comme irréprochables devant Dieu. C'est parce que Jésus a accepté de subir tout cela. Ce maximum de faiblesse et d'injustice a permis la plus grande victoire de l'histoire pour notre salut. Et même, finalement, la plus grande opposition de Satan, du diable, n'a rien pu faire contre cela. Alors, non seulement nous avons ce salut, mais en plus, Jésus est parfaitement capable de comprendre les trahisons que nous subissons, les injustices que nous subissons, puisqu'il les a vécues lui-même. Et nous savons donc que nous pouvons nous approcher de lui, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux le souligne aussi. Nous avons parlé de Pierre et Judas. C'est vrai que nous sommes capables, nous aussi, de trahir ou renier Jésus. Mais je crois qu'après, nous avons le choix, finalement, nous tourner vers lui en acceptant d'être au bénéfice de sa grâce et de son amour, comme Pierre, ou refuser de reconnaître notre faiblesse et nos torts auprès de lui et rester loin de lui, comme Judas, qui finalement a choisi de se suicider plutôt que de revenir vers Jésus. Alors, moi, voilà, j'avais simplement envie de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accepté de subir, tout ce qu'il nous a apporté par tout ce qu'il a subi. Et il me semble que le dernier verset du psaume 41 est approprié. Et bon, j'ai ajouté une ligne. J'ai fait une écriture apocryphe, mais voilà, je pense qu'elle est théologiquement juste. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord, de dire ce verset avec ce texte, ce verset un peu modifié avec moi, pour conclure ce message. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni soit Jésus, notre Sauveur et Seigneur, d'éternité en éternité. Amen. Amen.